Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast sur Cryptost. Et aujourd'hui, pour ce podcast, on n'a pas seulement un intervenant, on va avoir deux intervenants avec nous qui vont représenter CoinShares. Donc pour ceux qui nous écoutent, vous connaissez peut-être CoinShares déjà, donc vous savez à peu près de quoi on va parler aujourd'hui. On va évidemment parler du sujet des ETF spot Bitcoin aux États-Unis. On va parler aussi des nouveaux vecteurs d'investissement dans les actifs numériques, dans le Bitcoin et tout ce qu'on peut trouver aussi ici en Europe. Donc justement, pour parler de ce sujet, on a Benoît et Jérôme qui sont deux personnes qui vont justement se présenter. Je vais vous laisser vous présenter, mais d'abord, bonjour à vous, messieurs.
Bonjour Lilian.
Bonjour Lilian.
Donc, c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et justement, pour démarrer, ça va être le plus simple. Je vais vous laisser vous présenter, introduire votre parcours, ce que vous faites aujourd'hui. Peut-être, allez, on va commencer par Benoît. Ça va être, je vous donne la main comme ça.
Écoute, merci Lilian déjà de me recevoir. Donc, moi, je suis Benoît Pellevoisin et je suis le directeur général de CoinShares France et aussi le directeur communication et marketing du groupe CoinShares. Donc à l'international, et auparavant j'étais directeur marketing de Ledger, et moi plutôt mon background c'est la communication et le marketing avec une dimension conseil, et j'ai découvert Bitcoin en 2014-2015 à cette époque-là.
Bonjour Lilian, merci aussi pour l'accueil. Donc moi, Jérôme, je suis le directeur général de la seconde entité parisienne de CoinShares en France, donc qui s'appelle CoinShares Asset Management, qui a une licence de gestion qu'on dit AIFM, donc de gestion alternative auprès d'investisseurs institutionnels en France et dans l'Union européenne. Et en plus de ça, j'ai la fonction de responsable de la conformité des affaires réglementaires en France et un peu plus largement pour toutes les activités dans l'Union européenne, donc tous les échanges avec les régulateurs ou les bourses sur lesquelles nos produits sont listés dans l'Union européenne. Donc, mais principalement l'autorité des marchés financiers en France. Et moi, j'ai un parcours avant de rejoindre CoinShares il y a 2 ans. C'était un parcours de conseil dans l'asset management où j'aidais à structurer des hedge funds ou des sociétés de gestion un peu plus classiques en France ou à Luxembourg.
Très bien. Et ben, merci, merci de votre introduction, messieurs. Et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce podcast. Et donc, vous en avez parlé, on va discuter un petit peu de CoinShares, de ce que fait CoinShares aujourd'hui en Europe, mais aussi aux États-Unis, puisque voilà, je pense que pour nos auditeurs, vous l'avez reconnu, on en a un petit peu parlé ces dernières semaines. Enfin, on en a même beaucoup parlé ces dernières semaines sur Cryptost. Vous faites partie donc de ces gestionnaires actifs qui ont proposer un ETF spot Bitcoin aux États-Unis. Bon, on va en discuter un petit peu ensemble d'abord, mais pour commencer de manière très générale, comment est-ce que vous pourriez décrire CoinShares, ce que fait cette entreprise à l'heure actuelle?
Je vais prendre cette
Ouais.
question et puis les questions plus techniques, Jérôme les prendra. Je pense que c'est intéressant de faire un peu l'histoire de CoinShares. CoinShares, au départ, c'est l'émanation en fait d'un hedge fund en matières premières qui s'appelait Global Advisor, qui après en fait le cycle des matières premières et particulièrement du pétrole se pose la question de quel type d'actifs, en fait sur quel type d'actifs ils peuvent s'exposer, quel est un peu le nouveau cycle. Et à cette époque-là, 2012-2013, ils commencent à regarder en fait des biotech, ils regardent le cannabis, ils regardent un peu tout ce qu'on appelle deep value investment. Et à ce moment-là, ils entendent parler de Bitcoin, donc en 2013. Et quand ils regardent en fait le chart de Bitcoin, ils regardent un petit peu comment ça fonctionne, sa technologie, la promesse de la limited supply, etc. Ils commencent à se dire, mais en fait, c'est très très proche d'une matière première dans la manière de se comporter. Donc, dès 2014, ils créent le premier hedge fund régulé au monde Bitcoin. En 2016, ils font l'acquisition du premier ETP crypto qui s'appelle XBT Provider en Suède. En 2017, ils créent le premier hedge fund Ethereum et ils créent le premier ETP crypto Ethereum. Et donc, ça continue comme ça jusqu'en 2020-2021, où là, on crée en fait. Au dehors de XBT Provider, une autre suite de produits qui s'appelle CoinShares Physical, qui sont des ETP crypto aussi, mais plus pour moins pour les Nordiques, moins pour les Scandinaves, mais plus pour l'Europe continentale, particulièrement la Mittel Europa et puis l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas. Et donc ça, ce sont nos activités. Et puis cette année, très récemment, enfin, l'année dernière plutôt, très récemment, on a relancé notre activité de hedge fund qu'on avait arrêtée en 2017 parce que l'infrastructure n'était pas là, la maturité des institutionnels n'était pas là. Maintenant, on a tout, il y a les custodians, il y a l'infra, les instituts commencent à venir. Donc, on a relancé en fait notre activité de hedge fund en septembre dernier, qui est aussi disponible aux États-Unis. Et on a annoncé aussi en novembre donc, dernier l'acquisition de Valkyrie, enfin l'option d'acquérir Valkyrie, qui est un acteur d'ETF crypto aux États-Unis. On est en train de finaliser cette acquisition. Donc voilà, en gros, si on devait simplifier CoinShares, c'est trois activités principales. C'est l'émission d'ETP, donc nous, ce qu'on appelle gestion d'actifs passifs, donc qu'on a en Europe avec XBT Provider dans les Nordics, CoinShares Physical en Europe continentale et maintenant Valkyrie aux États-Unis. Il y a une deuxième activité qui est celle du hedge fund, qui est là de la gestion vraiment active, où l'objectif, en fait, c'est de dépasser, c'est de surperformer, en fait, les actifs sous-jacents, donc Bitcoin ou Ethereum. Et puis, on a une troisième activité qui est plutôt qui est une activité interne qu'on appelle Capital Markets, où là, ce qu'on va faire, c'est lending, staking, market making, arbitrage sur les échanges et liquidity provisioning pour différentes fondations, différents acteurs qui ont besoin de créer de la liquidité sur les plateformes. Donc voilà à peu près tout ce qu'on fait. Donc on se définit comme une société d'investissement spécialisée dans les actifs numériques. On est les leaders en Europe. Aujourd'hui, on est à peu près à 6 milliards 5. 6 milliards 5, c'est à la fois nos ETP et aussi un index qu'on gère pour Invesco, qui est un index qu'on appelle Block Index, qui est un index UCITS, qui est un ETF, qui permet en fait aux gens de s'exposer à l'industrie crypto, donc mineurs, semi-conducteurs, etc. Donc voilà, aujourd'hui on est à 6 milliards 5, je crois qu'on n'est pas loin du all-time high de CoinShares, et voilà, advienne que pourra.
Alors, je voulais te poser juste une petite question, parce que tu parles d'ETF, tu parles d'ETP, et je pense que parmi nos auditeurs, tout le monde n'est pas au fait des différences, ou en tout cas même juste de tout simplement ce que c'est, même si évidemment, bon, les ETF, on commence un petit peu à comprendre, mais est-ce que tu peux nous faire une petite parenthèse, d'abord, la différence entre un ETF en Europe et les ETF spot Bitcoin aux États-Unis, et qu'est-ce que toi tu appelles un ETP?
Je pense que Jérôme va. Je pourrais répondre à cette question, mais Jérôme le fera bien mieux que moi.
Bah, je vais l'apprendre alors. Du coup. Non, mais si tu veux, les ETP, c'est la grande famille générique qui va englober plusieurs sous-catégories dont vont faire partie les ETF. Les Américains, par facilité de langage, appellent ETF à peu près toute cette sous-catégorie en fait, de produits qui va s'y retrouver. Mais ça ne veut pas dire que juridiquement, les produits forcément, enfin les ETF qu'on appelle ETF aujourd'hui spot Bitcoin sont forcément fondamentalement des ETF en soi ou en autre catégorie. Je prends juste l'exemple par exemple de ce qui a été le déclencheur de ce revirement de la SEC, donc c'était le procès perdu contre Grayscale. Quand tu lis la décision du juge américain, il ne dit pas le mot ETF une seule fois dans la décision, il parle vraiment d'Exchange Traded Product, Grayscale, Bitcoin Trust, etc. Donc ça, c'est une première chose. Une fois qu'on est revenu sur ça, donc la grande famille des ETP, à l'intérieur, tu as les ETF, les ETC, Exchange Traded Commodities et Exchange Traded Notes, qui ont plus ou moins tous le même objectif, c'est traquer un sous-jacent ou un panier sous-jacent. Et les lister, les envelopper dans une enveloppe juridique qui va pouvoir être listée sur une bourse d'échange, une place de marché traditionnelle. Euronext par exemple à Paris ou Nasdaq à New York. Et si tu veux la différence qu'on a en France pour pouvoir en Europe dans l'Union européenne qui empêche de pouvoir structurer. Aujourd'hui nos produits sont des ETC ou des ETN. On a les deux formats donc XBT Provider est plutôt sur un schéma ETN et notre gamme de produits CoinShares Physical elle est dans un schéma ETC. On expliquera un peu les détails derrière de collatéralisation et comme quoi on détermine l'actif. Mais aujourd'hui en Europe, le format ETF, accessible au grand public, est impossible dans un format pour faire de la crypto. Pourquoi? Parce que dans l'Union européenne, on a tout le schéma des fonds grand public, alors qu'ils soient listés ou pas, qu'ils soient des ETF, donc listed ou qu'ils ne soient pas listés. Par exemple, dans l'assurance vie, il y a plein de fonds qui ne sont pas listés dans les marchés réglementés, mais qui sont quand même qui sont des fonds d'investissement grand public. Ils doivent se conformer à une espèce de label, à une directive européenne qui a été retranscrite dans chaque État membre, qui s'appelle la directive OPCVM, donc UCITS en anglais. Dans le nom d'ailleurs des fonds, on a systématiquement des ETF, il y a tout le temps ce mot-là, UCITS, qui oblige déjà, qui contraint, en fait, qui est une grande réglementation européenne, pan-européenne d'harmonisation des produits, qui veut dire qui allait en harmonisation et en réduction des risques et surtout en obligeant les acteurs et les structures et les régulateurs qui approuvent ces produits à diversifier en fait l'exposition dans ces produits-là. Donc par exemple, on a une règle qui dit on n'a pas le droit d'avoir un. Il est interdit d'avoir un actif, plus de 10% du portefeuille ne peut pas être investi sur un actif, par exemple. Donc ça, c'est une règle 5-10-40, etc. Mais il y a plein d'autres ratios de diversification de placement des risques. En plus de ça, l'éligibilité de produits tels que matières premières et encore moins crypto, s'ils n'ont pas pensé quand la directive date de 2009 à la base, elle est mise à jour régulièrement. Mais donc la crypto et les matières premières de manière générale sont pas admises, pas jugées éligibles à un fonds grand public déjà. Donc, ce qui fait que la notion de TF en Europe, on ne le retrouvera jamais, alors à moins à changer cette directive européenne, mais bon courage, on en a pour 5 ans au moins, on ne pourra jamais retrouver de format ETF, donc fonds en Europe. Donc, du coup, tout le monde est reparti sur d'autres typologies de produits qui existent depuis très longtemps, notamment pour les matières premières. C'est-à-dire aujourd'hui, dans votre assurance vie, vous pouvez acheter, enfin, vous pouvez lister, trader sur vos comptes titres des ETP or, cuivre, argent et même d'autres trucs un peu plus exotiques, mais. Donc les gens sont partis sur notre schéma de structuration qui sont les ETC, qui va être beaucoup plus libre et qui va être plus dans une réglementation, pas produit d'investissement retail, mais plutôt une réglementation émetteur. Donc c'est beaucoup plus de transparence, mais par contre on est très peu contraint sur la manière de structurer ou de ce qu'on va mettre dedans. Il faut juste que les régulateurs soient à l'aise pour l'approuver. Donc aujourd'hui c'est un peu ce schéma-là. Et aux États-Unis, ils n'ont pas cette segmentation de réglementation entre quel produit d'épargne, grand public, etc. Il faut qu'on le mette dans une directive qui va être pour les fonds d'investissement, on va l'appeler ça UCITS, tout le reste, ça va devenir des réglementations d'émetteurs. Non, eux, ils ont une réglementation émetteur, quoi. Et donc en fait, on va dire à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire c'est une réglementation qui, je suis transparent, j'oblige à être transparent sur ce que je vais faire, ce qu'il y a dedans, comment ça va me fonctionner. Mais après, la standardisation du produit et ce qu'il va y avoir à l'intérieur, comment il va être géré en termes de gestion des risques, etc., ils n'ont pas la même approche. Donc du coup, tout le monde est à peu près sous la même ombrelle, en fait, on est des ETP. Mais si on devait regarder fondamentalement les ETF spot Bitcoin américains, ils sont formés sous le schéma de trust. Donc c'est un trust, donc c'est une sous-structure juridique anglo-saxonne, que nos ETP et CoinShares Physical sont sous la même structure en Europe. Voilà. Donc si tu veux, c'est exactement le même schéma. C'est le même fonctionnement, en fait, c'est le même fonctionnement opérationnel. C'est une gestion sémantique, mais forcée par les réglementations locales, si tu veux. Je sais pas si ça a été assez clair, mais après, c'est un peu, voilà, dans la longue histoire, un peu, c'est un peu ça le schéma.
L'intérêt, c'est le bénéfice de ces produits, c'est que c'est surtout c'est des produits financiers. Enfin, nous, c'est pour ça que CoinShares, on s'est créé, c'est on a la thèse d'investissement de CoinShares et l'idée de CoinShares depuis le départ, c'est de se dire que cette nouvelle classe d'actifs va nécessairement se financiariser et en fait s'institutionnaliser. Et on va dire la première étape, mais qui est une étape clé, ben, c'est typiquement ces ETF-là, parce que ça permet aux institutionnels et aux retail d'avoir de s'exposer à travers un produit, une enveloppe, comme l'a dit Jérôme, dont ils sont familiers, régulés, facile, émises et listées sur un échange, disponibles chez son courtier ou chez sa banque. Enfin, donc c'est comme si tu achetais un ETF, comme si tu achetais un ETC d'or. Enfin, c'est vraiment la même chose.
Et on se rend compte que par exemple, donc ce schéma-là, déjà le produit, alors ce produit-là, nous, CoinShares est arrivé en France il y a un peu plus de 2 ans maintenant, mais c'est tout le travail qu'on fait, alors moi sur la partie institutionnelle, du coup avec la société de gestion, mais aussi Benoît dans toute la démarche de création de contenu, c'est de faire de l'éducation auprès d'abord des institutionnels quand même français, qui même eux ne connaissent pas très très bien ce genre de structure. Mais historiquement, hein, ça a toujours été le cas. À l'inverse de nos voisins allemands, on va dire, ou autrichiens, ou Pays-Bas, qui eux sont extrêmement familiers, et encore plus en Suède, on pourra l'expliquer aussi, parce que c'est certainement lié aussi à la gestion de leur épargne retraite, mais qui eux sont très familiers de ce genre de produit. Par exemple, si tu prends l'Allemagne, ce qui est peut-être jugé sur des aspects peut-être qui est négatif pour un écosystème local en France par rapport à l'Allemagne, etc., il y a très très peu de boîtes crypto. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'en ont pas besoin. Ils investissent sur des ETP crypto depuis le début dans leur compte titre et ça, enfin, si tu veux, ils n'en ont pas le besoin, si tu veux, d'avoir. Ils n'ont pas eu ce besoin-là d'avoir un écosystème fort d'exchange ou broker crypto. À l'inverse de la France, où ben, les brokers français ont une démarche un petit peu de on veut pas qu'ils investissent même sur ces produits-là régulés. Du coup, l'épargne a dû sortir de leur plateforme sur des plateformes PSAN ou offshore. Voilà.
Ouais, c'est extrêmement intéressant ce que vous avez expliqué, puisqu'on voit quand même se recouper des sujets dont on parle très souvent sur Cryptost, le manque de culture financière qu'on peut avoir en France, et la différence en fait entre, par exemple, les États-Unis, où ça va être beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'on va pas s'embêter à catégoriser tout, voilà, on met ça sous le nom d'un ETF. Aujourd'hui en France, j'ai un peu le sentiment, alors je veux dire en France, mais peut-être aussi en Europe, puisque c'est la même chose, mais voilà, ces ETP, ETF, ETC, on a des noms un petit peu partout. Et en fait, personnellement, j'ai été au courant que très tardivement de l'existence de ces ETP, alors même que je travaille dans ce domaine-là et que c'est un sujet qui me passionne. Et c'est vrai que je trouve ça très dommage de dire on a des vecteurs d'investissement à l'heure actuelle sur des produits comme le, enfin, sur des actifs numériques ou sur le Bitcoin, mais dont on n'a pas forcément connaissance parce que peut-être c'est un petit peu trop complexe à comprendre. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir cette différence un peu de culture entre les États-Unis et l'Europe. Et même au sein de l'Europe, tu l'as expliqué, il y a aussi même des différences de culture. Donc je trouve ça assez intéressant.
Mais
Peut-être que
si je peux me
tu voulais
permettre,
expliquer. Vas-y.
c'est lié aussi tout simplement à la relation. Enfin, aujourd'hui, quel est le premier actif d'investissement des Français? Ben, c'est l'immobilier. Le deuxième, c'est l'assurance vie, je crois.
Ah, c'est le dans l'enveloppe.
Dans l'enveloppe.
Ouais.
Oui, voilà. Et en fait, ça, c'est un espèce de tropisme français. Je crois qu'il y a à peine 2 millions de Français qui investissent en bourse. En Allemagne, c'est 10 millions. En Suède, ils sont 8 millions. Dans le pays, ils sont 2 millions. Donc, il faut juste comprendre qu'il y a un niveau nécessairement de maturité, mais qui est lié tout simplement à une sophistication liée à la manière dont tu épargnes pour ta retraite. Typiquement, en Suède, ben, c'est de la retraite par capitalisation. Et une partie en fait de ton épargne retraite, c'est toi qui dois la gérer. Ce qui a pour conséquence une forte maturité des Suédois et deuxièmement un écosystème de l'investissement extrêmement développé, extrêmement sophistiqué, avec deux brokers extrêmement importants. Et voilà. En France, on n'a pas ça. Mais au final, pour moi, ce qui fait qu'en France, on se retrouve dans cette espèce de situation, je veux dire, cette espèce de retard, mais un retard qu'on voit en Italie, qu'on voit en Espagne, il est lié aussi tout simplement à un truc, c'est que les brokers aujourd'hui, les courtiers et les banques, vous permettent pas d'acheter, c'est très difficile même aujourd'hui d'acheter des ETF. C'est des choses, on voit une explosion de l'ETF en France, mais on a un retard extrême avec comparé à l'Allemagne. Enfin, on parlait
Ouais.
avec BlackRock, la France pour eux, c'est le début, quoi. Tandis que l'Allemagne, c'est déjà extrêmement mûr. Donc, je pense que c'est tout simplement lié à une forme d'empowerment de l'investisseur qui est en train d'apparaître. Mais on est plutôt confiant sur ce point-là.
Et on se retrouve dans des situations avec Bruno Le Maire qui prend la parole pour nous expliquer que il faut mobiliser les capitaux dormants des épargnants français pour aller investir dans l'intelligence artificielle ou dans la transition énergétique. Donc c'est assez, entre guillemets, assez amusant de se dire que voilà, c'est vrai que si on avait fait peut-être quelques efforts auparavant pour développer cette culture financière, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Mais bon, je m'égare, c'est pas le sujet principal. En tout cas, on a évoqué donc ces ETF spot Bitcoin aux États-Unis. Vous avez parlé de Valkyrie, on a parlé de CoinShares. J'avais une petite question à vous poser, très rapide, mais quand même, c'est dans l'actualité, donc j'avais envie d'avoir vos retours sur ce sujet. Comment est-ce que vous avez vécu là ces derniers mois, et notamment cette approbation des ETF spot aux États-Unis? Comment ça a été de l'intérieur, un petit peu, racontez-nous.
Vas-y, je commence aussi
Je pense que toi, tu
après.
l'as vécu un
Ouais,
peu
j'ai
plus
un
de
peu plus.
l'intérieur, on va dire, d'un peu plus haut, on va dire.
Alors, c'est intéressant parce que on va dire que dès que BlackRock a commencé à émettre publiquement l'idée donc de la création du lancement de cette ETF, on va dire qu'il y a eu un revirement en interne. On se dit, ok, c'est sûr, ça va arriver, quoi. Il y a une dimension irréversible. BlackRock, je crois, ne s'est fait refuser qu'un seul ETF dans toute son
Ouais, c'est
histoire.
ça.
Je pense que c'est peut-être qu'il y avait une faute d'orthographe à un
Ouais,
endroit, et
c'était
je pense que
pour un truc en plus
c'était.
assez légitime en plus,
Ah
quoi.
ouais, tu vois,
Ouais.
donc nous, dès en fait juin, on a commencé à être extrêmement optimiste. Je pense que ce qui a accéléré l'optimisme, c'est évidemment le fait que Grayscale ait gagné contre la SEC. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, on a vu en fait les choses s'activer. Très rapidement. Donc nous, depuis très longtemps, on était en discussion avec Valkyrie. Enfin, ça faisait pas très longtemps qu'on était en discussion avec eux, mais on avait eu une discussion avec eux en début d'année dernière pour une potentielle acquisition qui ne s'était pas faite. Et puis au final, ils sont revenus vers nous en septembre dernier. On s'est dit, on peut pas passer à côté de ça. L'Europe, c'est super, mais 50% des actifs mondiaux sont gérés aux États-Unis. Donc il faut absolument qu'on y soit et surtout qu'on arrive à créer une offre un petit peu différente de juste une offre passive comme on peut avoir ce que vont faire des BlackRock, ce que vont faire des Fidelity. C'est super qu'ils fassent un spot Bitcoin ETF, mais ils iront probablement pas aussi loin que faire un, j'en sais rien, un levier ou un covered call Bitcoin. Ils ne peuvent pas faire ce genre de choses-là. Ce n'est pas dans leur ADN et ce n'est pas ce qu'ils proposent en général. Donc on a vécu ça de l'intérieur. Évidemment, on avait créé notre petit bot pour voir quand est-ce que les news de la SEC sortaient. Mais on a été très confiants à partir de juin. On a senti qu'en fait, la thèse d'investissement initiale de CoinShares en fait, était en train de se réaliser 10 ans après. Il faut l'admettre, nos fondateurs ont eu le nez creux, ça a mis un peu de temps, mais ils ont eu le nez creux. Et on est extrêmement positif, hein, je veux dire, je vois pas ce que tu
Non,
as, je vais rajouter.
non, et ce qui est intéressant en termes de aussi de culture interne, parce que ça a changé. Donc, moi, par exemple, je chapeaute sur les activités parisiennes pas mal de l'équipe de recherche ou de quant, ou de gens qui cherchent des algorithmes, font de la recherche sur des stratégies, autant pour les activités parisiennes, mais aussi pour le groupe. Et si tu veux, ce sont des personnes brillantes, mais qui sont aussi purement natives de cet écosystème purement crypto. Et qui en fait ont eu du mal au début à réaliser l'impact que ça aurait sur le prix ou même sur le narratif. Moi qui viens vraiment de la finance traditionnelle, c'était assez clair pour moi qu'en fait, en termes de volume et en termes de légitimité de l'actif, en termes de changement dans les discussions, dans les interactions que nous on aurait, d'autant plus nous en France et d'autres pays. C'est assez marrant de voir le revirement où maintenant tout le monde regarde tous les jours les flows dans les ETF spot. Alors c'est de la vieille tradfi, mais c'est quand même celle qui est en train de disrupter quand même la crypto aujourd'hui. Et c'était assez marrant de voir voilà, voilà, revenir, avoir commencé cette fois dans la crypto, on va dire vraiment dans les infrastructures crypto on-chain. Et par contre là maintenant, revoir que l'intérêt, enfin, là où ça se joue en fait, c'est peut-être pas on-chain, mine de rien, ça va se passer certainement dans les ETF. Et on a stack les Américains comme d'hab, quoi,
Faut
mais j'ai envie
juste
de te dire.
dire qu'aujourd'hui, c'est moins cher d'acheter un ETF Bitcoin aux États-Unis que de l'acheter sur Coinbase.
Enfin, et même beaucoup plus.
D'acheter
Et
Bitcoin
même,
sur Coinbase.
il faut 3 ans pour rentabiliser son achat, quand même, alors,
Exactement. Et même en Europe aujourd'hui,
Ouais.
acheter du Bitcoin avec un ETP crypto de CoinShares, c'est moins cher que d'aller trader sur un échange natif, quoi. Donc, il y a une espèce de révolution qui ne vont peut-être pas plaire aux cypherpunks originaux, mais il y a une légitimation de l'actif qui est évidente, et ça, on peut être que très très positif. Et d'ailleurs, on le voit avec les chiffres, hein, les chiffres récents, quand on voit les inflows qui arrivent là tous les jours dans les produits ETF, on parle de centaines de millions de dollars quasiment tous les jours, enfin, c'est quand même, c'est inimaginable, quoi,
J'ai
hein.
regardé sur les hier. La journée de trading hier, on est équivalent sur les spots ETF.
Ouais.
En termes de volume de trading, on est, je crois, à égalité avec le spot Binance. C'est quand même. Et c'est du spot. Bah, tu trades un
Un
ETF, mais
ETF.
derrière, c'est du spot qui est tradé. Mais genre, c'est pour se rendre. Faut...
On a eu, je crois qu'on a explosé surtout sur la journée d'hier, les volumes. On avait fait un record lundi, on
Ouais.
avait égalé la journée d'approbation.
Ouais.
Mardi, on a quasiment égalé à nouveau, et là, hier, on l'a explosé, on était à 6 milliards de dollars de volume, donc c'est vrai que c'est énorme. Et je suis un peu d'accord avec ce que tu expliquais. J'allais te le dire justement, ça y est, la thèse d'investissement de CoinShares, elle s'est confirmée avec ses ETF. Mais au-delà de ça, quand on parle de vouloir faire de Bitcoin l'or numérique, une réserve de valeur, évidemment qu'on était obligé de passer par cette étape d'institutionnalisation de cet actif. Et donc, pour ceux qui s'étonnaient un petit peu de l'approbation des ETF et de ce que ça peut représenter à l'avenir, voilà, bah, il n'y a rien d'étonnant. On parle d'or numérique depuis des années. Maintenant qu'on a une étape qui se franchit, on ne va pas, entre guillemets, s'en plaindre. On peut évidemment se questionner sur les risques, ce que ça représente d'un point de vue de la philosophie de Bitcoin. Mais en tout cas, voilà, vis-à-vis de cette thèse-là de réserve de valeur et d'or numérique, ça me semble tout à fait logique. Et bon, je ferme cette parenthèse, mais je voulais vous questionner aussi sur l'impact que vous avez pu ressentir ici en Europe. Puisque bon, ces ETF spot, ils ont été approuvés aux États-Unis, on le sait, on l'a dit avec les volumes, etc. Ça change beaucoup de choses là-bas. Mais en Europe, bah, ça change pas grand-chose d'un point de vue de potentiel d'investissement, puisque les produits existaient déjà. Mais est-ce que vous avez senti un engouement grandissant, que ce soit de la part des institutionnels ou même des particuliers, est-ce que vous avez quelques données à nous partager là-dessus?
Alors, moi, je pense qu'il y a trois points importants à voir. Au départ, en fait, on a vu pas mal d'outflows, qu'on suppose d'institutionnels qui sont partis en fait sur les ETF américains parce qu'ils sont moins chers, nécessairement. Là, on revoit des inflows arriver qui est lié à la price action, qui est assez légitime. Deuxième point pour moi qui est évident, c'est depuis juin dernier, les institutionnels reviennent nous voir. FTX, faut imaginer, FTX, ça a été l'hiver nucléaire. Hein. C'est-à-dire que tout le monde était méga chaud. Et puis, t'as eu FTX, quoi, voilà. Et tout le monde a fait, OK, en fait, il est pourri cet écosystème, c'est terrible, etc. Et depuis juin dernier, on voit un retour de l'intérêt. Déjà, les performances de Bitcoin l'année dernière sont quand même très bonnes. Enfin, c'est le meilleur actif c'est l'actif qui performe, enfin, qui surperforme tout l'année dernière. En fait, le simple fait que BlackRock ait annoncé quelque chose, Fidelity ait annoncé quelque chose, ben, tout le monde est en train de se dire, ah ouais, peut-être qu'il faut qu'on en propose. Et là, on a plein d'instits ou ce qu'on va appeler nous des gatekeepers, des courtiers, ben, des banques, etc., qui ne connaissaient même pas l'existence de ces ETP crypto en Europe, en particulier en France, qui en fait voyaient le monde de la crypto comme un monde interlope, de jeunes nerds qui comprenaient rien à la finance et qui. C'est vrai que la crypto en France pendant 10 ans a dit non aux régulations. Si on simplifie, est-ce que les régulations empêchent l'innovation? Donc c'était un peu l'image de la crypto. Et là, en fait, le blanc-seing de BlackRock, le blanc-seing de la SEC, il y a clairement une accélération à la fois de certains acteurs en France, en tout cas, on peut le dire. Attendons de voir maintenant si les gros acteurs français, puisque juste pour donner un exemple, en Allemagne, nos produits sont distribués par toutes les banques allemandes. C'est-à-dire que n'importe qui, dans son compte titre,
Un droit, hein.
Deutsche Bank peut acheter du CoinShares Physical et avoir une exposition au Bitcoin. En France, on n'en est pas du tout là. Tu n'es pas
Ouais,
d'accord? Si.
non, mais bien sûr, ouais,
En France, on n'est vraiment pas
on
là,
a eu
quoi.
des cas, mais on se bat, et en fait, ce qui est intéressant, moi je vois, j'ai quand même vu les deux moments quand même.
C'est vrai.
Il y a eu, jusqu'en juin, à partir de juin, la price action, je pense que les flux sont recommencé à ressortir de la finance traditionnelle ou des banques. Enfin, je pense que le schéma de flux, parce que ça, ils le savent, hein, ils le monitorent, le schéma de flux de sortie de j'ai eu ma paye, je fais un virement vers mon exchange, etc., peu importe lequel, ça, c'est reparti. Et je pense que déjà, donc du coup, les portes s'ouvraient déjà pour qu'on puisse se présenter, etc. Mais alors là, depuis janvier, c'est même limite, c'est plutôt le sens inverse, c'est qu'ils demandent de venir les revoir, qu'en fait, finalement, ils ont réfléchi au sujet, parce qu'il y a le label un peu BlackRock, et en fait, on leur avait dit, hein, toute l'année dernière, enfin, tout 2023, on a passé notre temps à dire, alors, attendez, les produits, ils existent depuis 2015 en Europe, ils sont audités, ils sont régulés, etc. Je dis, bon, vous savez bien, en plus, il y a eu l'analyse de l'OCDE et de l'AMF il n'y a pas longtemps sur le fait que c'est quand même deuxième placement, alors peut-être pas en montant, mais le deuxième placement des Français, 9, plus de 9, a priori, l'OCDE dit que 9% des Français en détiendraient, donc c'est énorme, quoi, c'est derrière l'immobilier locatif. Mais genre devant tout ce qui est ETF et investissement action. Donc, du coup, on était un peu dans le schéma en disant, mais attendez, il ne faut pas qu'on loupe le train avec les Américains, quand ils vont se lancer, ils vont se lancer, mais ils vont faire all-in. Bon, d'ailleurs, ce qu'on voit, hein, en 2 mois de trading, l'AUM des ETF américains, c'est 2 fois l'AUM européen. CoinShares, on est dans le business depuis 2015. Depuis 2015, nous, les ETP européens, c'est 11 ou 12 milliards de dollars. Là, les Américains, ils en sont à plus de 20 en 2 mois. Donc voilà, c'est ça le truc. Donc nous, on était comme ça en disant, attendez, et dans la liste des ETF américains qui commencent à arriver, il n'y a pas un seul Français, il n'y a pas un seul Européen. Enfin, il y a
Non,
CoinShares.
faut pas oublier qu'un des plus gros gestionnaires d'actifs au monde dans le top 5, c'est Amundi.
Oui, c'est ça. Et il n'y est pas. Il n'a même pas de produit en Europe. Si on le dit, si on regarde un petit peu, Fidelity, Invesco, WisdomTree, VanEck, ils ont des ETP en Europe.
BlackRock.
Non, BlackRock, ils n'ont pas.
Des ETP en Europe, pardon, ok,
Non,
excuse-moi,
ah ouais,
d'accord.
pardon, en
Non,
Europe.
en
Non, mais
Europe,
si
ils
tu
n'en
veux,
ont pas.
ces acteurs américains qui attendaient
Ouais.
les US, ils ont déjà leur. Alors, il est tout petit, ils ont fait la preuve de concept, ils se sont entraînés, ils ont regardé comment ça fonctionne, ils ont regardé quelles étaient les bonnes contreparties. Mais ils l'ont, et nous, quand on parle ben, à ces grands asset managers européens, voire français, c'était en mode on n'y touchera jamais, c'est mort, on dit, mais attendez, les Américains, quand ils vont arriver, ils vont prendre tout le marché, et si vous n'êtes pas prêts, bon, bref. Et a priori, ce qu'on entend parler, c'est que ça serait en train de dire, ben, d'avoir vu le sujet et de dire, ben mince, on n'est pas dedans. Ben oui, ben, du coup, ils sont peut-être en train
Mais
de lancer le
d'ailleurs,
sujet.
pour dire une discussion, enfin, on ne peut pas citer les gens avec qui on discute, mais La discussion qu'on a, c'est donc les gens commencent à revenir. Toi, c'est des gens qui pendant un an on leur parle et puis tu sais, tu reçois un mail tous les 3-4 mois. À partir de juin, ça commence à s'accélérer. Ouais. Oui, on se revoit en septembre. Ok, on se revoit en septembre. Et là, on en est à des discussions et les gens disent, on est en train de rater le train, le Bitcoin est déjà à 60K. Ça veut dire que si on offre ça à nos clients, ce sera trop tard parce que en fait, le bull run sera passé. Et donc, en fait, c'est ça la situation. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup trop probablement d'idéologie, un rapport un peu, voilà, regarder un peu en chien de faïence cette industrie et cet actif. Et on va passer à côté, mais c'est un peu l'histoire de l'Europe sur pas mal de technologies, donc il faut s'y habituer.
Non, mais
Et ça me frustre un peu personnellement de vous entendre expliquer ça parce que c'est vrai que bah, comme t'as conclu là à l'instant, j'ai le sentiment que bah, en Europe on a un peu manqué tous les trains et là de se dire alors que justement, enfin je veux dire on a quand même eu le temps de s'y préparer, on le disait sur Cryptost en mai juin dernier au moment de cette demande de BlackRock, alors évidemment on pouvait pas prédire l'avenir mais on savait que c'était peut-être l'argument le plus fort et sachant que dans les quelques semaines qui ont suivi, il y avait eu le procès de Grayscale contre la SEC, qui était le deuxième argument, qui montrait que ça y est, c'était quasiment fait, et que BlackRock qui se met quelque part, bah voilà, c'est quand même un signal très très fort. Et de savoir que ça n'a pas bougé en Europe, ça n'a pas au moins fait un petit électrochoc en disant mince, c'est le moment de s'y mettre, et que c'est que maintenant, quand c'est pas trop tard, mais en tout cas quand c'est un petit peu bah, en retard en tout cas, de s'activer, je trouve ça très dommage et je connaissais pas cette information que Amundi qui est donc ouais, le plus important ici en Europe n'est pas positionné dessus, bah, c'est vrai que c'est un peu dommage, mais bon en tout cas voilà on a compris la vision globale, la différence États-Unis Europe, mais je voulais revenir un petit peu sur vous, ce que vous faites. Vous l'avez évoqué, donc vous avez différents produits pour investir notamment sur Bitcoin par le biais d'un ETP. Juste en quelques mots avant qu'on creuse un peu, quelles sont voilà, les grandes catégories de produits que vous proposez à l'heure actuelle avec CoinShares?
alors, on va dire, on propose, donc on a 19 ETP. Parmi ces ETP, donc on doit avoir 15 coins différents, 14 coins différents. Donc ça va être Bitcoin, Ethereum, Cardano, Matic, enfin Polygon, etc. On a à peu près tout ça. On est sur ces ETP les moins chers. Notre particularité, c'est notamment que sur nos ETP de staking, en fait, donc Ether, voilà, je cite Matic, etc., on n'a pas de frais de gestion et on redonne de manière transparente une partie des frais de staking à nos investisseurs. Donc c'est ça un peu qui fait notre innovation. Comment on fait ça? Bah, c'est que CoinShares, on est quand même. Même si on est un acteur, on va dire, assez institutionnel, on est dans la crypto depuis très longtemps, donc on a les validateurs, on a le custodian qu'on a créé avec Ledger et Nomura qui s'appelle Komainu, qui est un dépositaire régulé qui nous permet de faire toutes nos opérations, aussi de staking, etc. Donc on a créé tout cet écosystème, donc voilà un petit peu voilà ce qu'on fait. Donc en gros, si les gens veulent s'exposer à Bitcoin par un produit régulé, ils peuvent le faire via nous. S'ils veulent s'exposer à Ethereum et récupérer une partie des frais de staking sans payer de management fees, enfin de frais de gestion, pardon, ils peuvent le faire aussi par nous. Donc ça, c'est un peu notre grosse activité. On a une deuxième activité dans les ETP, mais là qui est différente, c'est ce que j'expliquais. C'est si vous voulez vous exposer par exemple, à l'industrie crypto, on a un ETF qui s'appelle, enfin qu'on a avec Invesco, qui s'appelle Block Index. On doit gérer à peu près 600 et 700
700
millions en
milliards,
ce moment,
700 millions.
qui est un ETF actively managed, donc
Sur les actions,
sur de l'equity, voilà, de
actions
l'equity.
internationales, comme font
Exactement.
d'autres providers,
Exactement.
pour ne pas les citer, il y a Arbevel qui a son fonds, Mélanion aussi qui a son ETF en France, etc.
On est le deuxième plus gros.
Et par contre, voilà, nous, c'est un des plus gros, mais avec Invesco, c'est Invesco qui le gère, et nous, en fait, il réplique notre stratégie derrière.
Exactement.
Donc ça permet d'avoir un peu une gamme de produits, alors on va dire sur la gestion passive, on va dire sur la gestion, parce que la gestion active, c'est vraiment réservé plus aux institutionnels. Mais la gestion passive, tu as vraiment l'ETP single coin, donc tu choisis ta crypto et tu le fais comme un grand garçon. On a aussi des indices, on a créé des ETP indiciels, c'est-à-dire qu'en gros un basket de 10, alors qu'il soit sur les 10 plus grandes market cap ou une thématique des 10 coins qui sont en lien avec des smart contracts. Donc ces ETP un peu thématiques, c'est-à-dire qu'en gros, le produit d'appel pour dire je veux m'exposer à l'écosystème crypto de manière raisonnable, mais je ne sais pas trop laquelle choisir, t'achètes un peu le basket, également à zéro frais de gestion, et ensuite J'ai oublié. Non, mais ouais, c'était
Il y en a un deuxième qui est Smart Contract.
les smart contracts, c'est ça. Et nous, ce qu'on a voulu faire, en fait, il y avait aussi, ça rejoint aussi ta question précédente, il y avait aussi un aspect, je pense, qui a bloqué beaucoup les institutionnels français. C'est qu'il y avait un aspect, en fait, beaucoup, quand on venait s'adresser à eux, je pense, l'écosystème crypto français, on les prenait pour des gens qui comprenaient rien. Alors, comprendre rien à la crypto, mais surtout qu'en fait, il y a, je pense, beaucoup de gens avaient ce postulat en disant que ce qu'ils faisaient dans la crypto, c'était plus complexe que ce qu'ils faisaient. Et la réalité, c'est que c'est pas vraiment le cas. Je pense pas, il y a des choses très complexes de l'autre côté, mais par exemple, l'ingénierie financière et l'ingénierie juridique développée par l'industrie financière TradFi pour rendre des produits efficients, peu chers, fiscalement efficace, enfin efficient, ça c'est le plus truc qu'on ne dit pas, on dit pas, mais par exemple nous nos produits, donc il y a du staking, on fait du staking derrière, donc nous sur l'Ethereum on est un des plus grands stakers au monde, voilà, on est dans le top 15 des plus grands stakers, donc en fait on est une boîte de TradFi qui fait de la crypto, mais enfin, on participe beaucoup plus à l'écosystème Ethereum en fait que beaucoup d'autres gens, en gros 2-3% des transactions Ethereum on sont validées par nous, si on fait le débat, donc on sait de quoi on parle en fait. Par contre le truc c'est que nous derrière on rajoute un layer juridique, TradFi traditionnel, etc. Où en fait, on va s'assurer que les rendements staking, ça ne va pas être un événement fiscal. Il y avait le grand sujet là sur la loi de finances rectificative, sur les rendements, sur l'imposition du staking. Bon, ça a été repoussé si je ne me trompe pas, mais nous, le produit, il ne se pose pas de question parce qu'en fait, c'est un schéma où ça va pas devenir un rendement pour toi, donc ça va être remis dans le produit, c'est-à-dire que le produit, il va surperformer le sous-jacent. Si tu es sur l'Ethereum, c'est-à-dire qu'en principe, au fur et à mesure du temps, tu vas surperformer l'Ethereum. Et quand tu vendras ton impôt. Et je veux dire, c'est plein de schémas où, en fait, effectivement, c'est un sous-jacent non traditionnel, mais il manquait la phase de venir le présenter avec une structuration, avec un discours, avec une compréhension des enjeux des acteurs, des clients, mais aussi des acteurs qui les proposaient, de TradFi. Donc, fiscalement, comment ça fonctionne, en post-marché, comment ça marche quand j'achète sur Euronext, c'est clearé chez Rockir Bank. Il faut savoir ces choses-là, en fait. Et c'est ce qu'a pêché, en vrai, aussi. C'est qu'il y avait quand même deux mondes. Alors, ça, Benoît, je pense qu'il enchaînera sur ça, mais c'est assez intéressant. Je me permets de prendre le temps d'en parler. Mais c'était très bien, Psan, Mika, c'était certainement très, très bien. Et je pense qu'aujourd'hui, ça fera office certainement d'étalon mondial en termes de réglementation. Mais ça a créé deux mondes qui ont eu beaucoup de mal à parler. Et c'est vrai que nous, le retour qu'on a eu avec les quelques grands institutionnels français ou banques, c'est que nous, on arrive avec une position aussi on n'a pas dit au début, mais on est listé, nous, on est un groupe public. On est un groupe public, on est au Nasdaq à Stockholm, c'est-à-dire que tout le groupe, toutes nos activités sont complètement publiques, on fait des rapports trimestriels, toutes nos activités, chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est par exemple FTX, on a dû disclosé le lendemain combien on avait perdu sur FTX. Il y a qui dans l'acteur crypto a donné le montant de ce combien il avait perdu sur FTX? Personne. Nous, on est obligé de le faire, sinon c'est l'abus de marché. Et ça, dans le monde, il n'y a que deux acteurs qui sont comme ça, dans ce positionnement. Tu as Coinbase et nous, sur un marché réglementé. Hein.
Ouais, parce que Galaxy
C'est un
passe
marché organisé.
sur un
Mais
marché
bon,
de MTF.
mais si tu veux, c'est ça aussi ce qui manque. Nous, ce qui fait que les portes s'ouvrent quand on peut et qu'on arrive à entrouvrir les fenêtres, les portes, en fonction par où on passe, c'est vraiment le fait quand même. On est listé, en fait, c'est sûr, on a des licences, on a une licence de gestion en France, on a des produits listés qui sont revus en Euronext par l'AMF et un régulateur, il audite les états financiers de nos ETP en Europe. On parle d'égal à égal, en fait. Et ensuite,
Bah, c'est même plus
voilà.
que ça, c'est-à-dire que très souvent les boîtes auxquelles on parle ne sont même pas listées.
Sont pas
Donc
listés.
même quand tu parles à un gros institutionnel en France, il n'est pas listé, il n'est pas coté sur
Voilà.
donc il n'a pas ces mêmes contraintes. Et ce que dit Jérôme est super important parce que moi je l'ai vécu de l'intérieur en passant de Ledger à CoinShares. Psan, ça paraît super comme ça, c'est une super idée. Mais en fait, on s'est fait avoir en faisant ça parce que qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé en fait deux écosystèmes, un écosystème financier qui ne parle pas un écosystème crypto. C'est deux mondes qui, en fait, ne se comprennent pas, ne veulent pas se parler, ont deux idéologies qui sembleraient incompatibles, etc. Chose qu'on n'a pas du tout vu aux États-Unis, où il y a une hybridation, en fait, depuis 5 ans. Et quand BlackRock, en fait, a déjà investi dans Coinbase, utilise Coinbase dans sa custody, cette hybridation, on peut imaginer qu'elle a été faite depuis longtemps. Ces gens-là, ils ne se sont pas découverts il y a 6 mois. Enfin, c'est des gens qui se parlent depuis longtemps. Donc, au final, la SEC, en apparaissant comme le parangon horrible des crypto-maxis, etc., ben, au final, elle a fait gagner quoi? Elle a fait gagner les acteurs américains de cette industrie. À la fois un acteur crypto-natif comme Coinbase et à la fois un acteur TradFi comme BlackRock. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que en voulant laver plus blanc que blanc en Europe, en ayant notre propre régulation, en se disant, ah mais c'est de l'innovation, en fait, parce que l'utopisme européen, c'est de dire, la crypto, c'est de l'innovation. Les États-Unis disent, la crypto, c'est de la finance. C'est pas la même chose. Et donc, on a vu cette espèce de prisme technologique en Europe comme le sujet numéro un. On s'est dit, ah mais depuis 10 ans, on se fait bouffer par les Américains en techno, ben, il faut qu'on fasse notre régulation européenne. Mais au final, qu'est-ce que ça a créé? C'est une non-hybridation. Et c'est ça, en fait, qu'on peut véritablement aujourd'hui regretter. Et c'est très regrettable.
C'est intéressant parce que c'est un point de vue qu'on entend quand même assez peu souvent, je trouve. Mais nous les premiers, finalement, on a quand même, quand on parle de régulation, un peu la tendance à dire que, bon, c'est vrai qu'on a été en avance sur les États-Unis, ça c'est un fait. On a été en avance sur le Royaume-Uni, sur l'Asie même. Hein, on voit qu'il y a de la régulation qui commence à avancer et qui s'inspire un petit peu de ce qu'on a fait en Europe. Donc ça. Définir un cadre réglementaire pour les actifs numériques, on a été premier, on a été en avance, et la France a même été à l'initiative de ce qui s'est passé en Europe. Mais c'est vrai que ce point de vue-là, de la manière avec laquelle tu l'expliques, d'un point de vue uniquement et purement financier, non pas technologique en tout cas, c'est vrai que c'est plutôt vrai. Et finalement, voilà, toutes les petites batailles de la SEC envers Binance Coinbase a permis d'ouvrir la voie à Coinbase, et derrière cette approbation des ETF a créé, ouais, finalement, un
Tu vois,
partenariat discret entre les deux.
dans ce que tu dis, un truc que je trouve intéressant, c'est qu'il a fallu qu'on crée une régulation pour les actifs numériques. C'est comme si tu t'étais dit, tiens, je vais créer une régulation juste pour l'immobilier, je vais créer une régulation juste pour les matières premières, je vais créer une régulation juste pour je sais pas quoi, sur les actifs tech. Enfin, tu vois, c'est en fait, quand tu comprends pas un objet, bah, nécessairement, tu lui donnes une nouvelle catégorie.
Bah, là, on a eu l'IA, là, récemment.
Ouais, donc, exactement. Donc là c'est aux États-Unis, ils se sont dit, non, mais en fait, tout ça rentre juste dans nos securities, c'est tout. Securities ou commodities, ça
Mais je
rentre dans nos
rajouterais,
securities.
oui, ça c'est, oui, tout à fait. Bah, d'ailleurs, c'est un peu aussi quand même le souci, c'est-à-dire, on prend Ethereum, on en prend d'autres. Bon, dans quelle case on les met? C'est pas vraiment un commodities, c'est plutôt un securities. Il y a quand même des frictions quelquefois, mais
Ouais, bien
pour
sûr.
Bitcoin, ça a été plus simple.
Mais
Mais
c'était.
vas-y,
Pardon.
je te
Non,
laisse.
non, mais c'était. Les États-Unis ont eu le même débat avec l'or dans les années 80, enfin, début des années
Ouais,
80,
exactement.
fin des années 70. Le même combat, CFTC versus SEC. Qui est responsable de gérer les premiers ETP américains sur l'or? L'Europe avait créé les premiers ETP or, etc. Et le même schéma, c'est nouvel actif qui veut se financiariser ou qui veut entre guillemets se titriser, devenir tradable sur les marchés américains. C'est la même chose. C'est l'histoire qui se répète. Sauf qu'en fait, c'est une nouvelle génération et pas mal de gens l'oublient en fait, si tu veux. Et in fine, en fait, à la fin, les plus grands fonds sur l'or sont américains. Ils font 10 fois ceux de France européens. Et pourtant, il n'y a pas 10 fois plus d'épargne aux États-Unis. Il y en a 2 fois plus, mais il n'y a pas pour l'or.
Mais les États-Unis gèrent une grande partie de l'argent du
Oui,
monde aussi.
c'est vrai,
C'est ça qu'il faut admettre.
c'est vrai, c'est vrai.
Bon, en tout cas, pour l'instant, le schéma a l'air de se reproduire avec le Bitcoin. On espère que ça changera. Et j'avais donc une autre question à vous poser justement sur tous les produits donc, que vous nous avez présentés. En tant qu'investisseur particulier, moi finalement, comment est-ce que je pourrais investir dans ces différents produits? Est-ce que déjà je suis la cible? Première question. Et si oui, si je suis la cible, comment est-ce que ben voilà, je me débrouille avec ce que j'ai autour de moi pour pouvoir investir dans ces produits-là?
Bah, ces produits, ils sont à la fois pour les institutionnels et les retail, en sachant que ça reste quand même des produits complexes, faut l'admettre, comme certains ETF,
Enfin, à risque,
voilà,
quoi, il y a un
à
risque
risque, hein,
professionnel.
nécessairement. Et c'est des produits, en fait, que. Alors, mettons, on va dire, si tu es un investisseur allemand, tu vas sur ton compte titre allemand et tu peux l'acheter directement sur ton compte titre de ta banque. En France, ils sont moins disponibles parce qu'on a encore ce problème que j'évoquais avec Jérôme précédemment de gatekeeping. Mais tu peux acheter nos produits sur DEGIRO, sur Saxo Bank,
D'autres plateformes, Interactive
Alternative
Brokers,
Broker, Fortuneo, et peut-être dans le futur
d'autres plateformes.
d'autres plateformes. Typique, enfin, je vais te raconter une anecdote qui nous est arrivée il y a 3 semaines. Là, c'est un institutionnel, c'est un family office qui veut acheter, je crois, de l'Ether par nos produits.
Ouais, tout à fait, ça.
Donc le family office fait cette demande et quasiment toutes les banques françaises
Je refuse
ont
l'exécuter.
refusé l'exécution du produit.
Non, mais c'est ça. Mais tu vois, c'est là où on prend notre bâton de pèlerin, c'est que là maintenant on commence à travailler en fait les gens qui sont en contact avec leurs clients et qui soit reçoivent des demandes et ne pouvaient pas y répondre, et accepter de voir dans leur... Quand tu es family officer ou gérant privé de quelqu'un qui est très fortuné, l'objectif c'est de le garder dans son infrastructure pour pouvoir monitorer le patrimoine, savoir ce qui se fait. Quand tu as la demande du client qui effectivement te dit bah, j'en veux, et toi tu t'as rien proposé, tu acceptes de faire le virement, qui commence à... J'arrête pas de faire des pouces à chaque fois. Le client qui accepte qu'il y a un virement qui va quitter ta banque privée ou de ton scope d'intervention. Mais par contre, là, du coup, nous, on fait le travail pour justifier que, un, l'investissement crypto, un, a sa place dans un portefeuille. Donc ça, nous, on est convaincus, on est tous dans cet écosystème-là, et surtout dans la période actuelle. Mais nous, on est aussi sur le long terme, on est toujours, nous, on fait des propositions, des présentations sur une allocation de 4% de Bitcoin dans une allocation, et quel est l'impact ça a, et c'est un peu le discours qu'on a. Donc beaucoup plus raisonnable, raisonné dans une patrimoine qui est censé durer une vie et pas un trade de 6 mois, tu vois ce que je veux dire? Du coup, on arrive à faire ce travail-là auprès des plateformes et auprès des banques privées ou des gestionnaires d'actifs, de dire Bitcoin a sa place dans une allocation. Deux, Bitcoin a sa place dans l'allocation, comment? Pourquoi les ETP? Ben, on vend notre produit, enfin, on vend notre
Dans la
thèse,
catégorie déjà.
on vend notre thèse, donc bien sûr qu'on dit on vend les intérêts des ETP par rapport au spot, que ce soit déjà pour le risque de contrepartie que tu as sur la plateforme spot ou pas. Il y a des inconvénients, hein. Tu traites pas le week-end, tu peux pas traiter la nuit parce que ça traite pas 24 sur 24, les marchés traditionnels. Donc voilà. Il y a aussi des pour et des contre, mais on estime que les pour sont assez intéressants. Et après, trois, en fait, quand on a gagné, donc là, on est en train de vraiment gagner, d'avoir de l'attraction sur ça. Maintenant, on arrive sur, ben, il passe l'ordre. Et là, tu as la table d'exécution de Société Générale, Investment Banking, qui doit passer le trade sur Euronext, qui du coup dit, ah, non, on passe pas le trade sur ça, on touche pas. Donc là, et du coup, on a dû détricoter, on y est arrivé, hein, on y est arrivé, le client a pu faire son trade. Mais du coup, on est en train de, voilà, on remonte toute la chaîne de valeur, en fait, de cet écosystème-là, et on est en train d'essayer d'ouvrir toutes les portes, les unes après les autres. Donc, voilà, donc c'est un peu
Mais moi,
au.
j'invite toute la communauté crypto d'aller voir leur banquier, de dire est-ce que sur mon compte titre, tu peux acheter un ETP Bitcoin, que ce soit nous, un de nos concurrents, peu importe. Je suis prêt, franchement, je les invite à boire s'ils arrivent à boire un verre si leur banquier accepte.
Ouais, on va lancer l'appel. Et de toute manière, ça reste un exercice très intéressant. Moi, je l'ai fait à titre personnel. Aller voir mon banquier en lui disant, voilà, j'aimerais investir sur le Bitcoin. Est-ce que c'est possible de le faire? Alors là, évidemment, bon, tout de suite, réaction épidermique. Ah non, 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 je ne vous propose pas ça. Mais non, c'est un vrai, une vraie question. Et leur demander s'ils sont au courant, si oui ou non, on peut investir par le biais de son compte titre, au moins dans le Bitcoin. C'est vrai que je suis prêt à parier que la réponse, elle sera majoritairement non. Alors que du coup, vous venez d'expliquer, c'est plutôt censé être oui. Donc ouais, vrai exercice, on le fera. Ceux qui nous écoutent pour ce podcast, n'hésitez pas à le faire et dites-nous. On fera un petit sondage, dites-nous en retour si ça a fonctionné ou pas.
Ne serait-ce
Et
qu'aussi gagner la carte bleue de Benoît, ça peut être pas mal.
ce sera la carte de l'entreprise.
Il y aura peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens à inviter, hein, donc on fera peut-être un
Et
événement.
franchement, si c'est le cas, moi je suis content.
C'est-à-dire que
Ça veut
finalement,
dire que ça marche,
c'est.
ça veut dire que les gens investissent dans nos produits ou dans des ETP, donc c'est une bonne nouvelle.
Bon, en tout cas, voilà. Alors, j'avais pu. Enfin, bon, on a quand même beaucoup discuté. Et ça fait quasiment 50 minutes qu'on enregistre. Je vous aurais bien posé une très rapide question sur voilà, les garanties de sécurité, puisque vous l'évoquiez. Tu disais, c'est peut-être plus sécurisé que d'investir en spot dans le Bitcoin. Et pour le coup, là-dessus, je suis pas totalement en désaccord avec toi. Parce que je sais qu'évidemment, il y a des produits qui sont totalement. Enfin, qui sont plus sécurisés. Voilà, avec des portefeuilles type Ledger et ainsi de suite, mais on rajoute le risque humain et on sait que toute la population n'est pas prête à l'heure actuelle à gérer ses propres clés privées et ainsi de suite. Et on le sait, bah voilà, FTX, beaucoup de monde se sont fait avoir avec FTX, ont perdu de l'argent. Et donc pourquoi est-ce que ce serait plus sécurisé avec CoinShares et quelles sont justement les garanties de sécurité que vous apportez, vous?
Je fais juste une
Ouais,
intro, mais
vas-y.
après c'est Jérôme qui va le prendre. C'est juste, déjà, il y a un truc à clarifier, c'est qu'il faut bien comprendre que le métier de dépositaire, c'est un métier régulé, ça n'est pas une activité technologique. Non, je fais la passe à
Non,
Jérôme.
non, non. Non, non, mais si tu veux, si on regarde un peu, et de manière, on va essayer de synthétiser et de clarifier, mais le produit, comment il est structuré, il est structuré d'une telle manière que le principe, l'objectif unique principal de ce produit-là, c'est de pouvoir répliquer la performance d'un sous-jacent que le véhicule va détenir de manière sécurisée chez un tiers, et que en cas de faillite de CoinShares ou de l'émetteur ou de BlackRock, les investisseurs ne perdent pas leur argent et peuvent récupérer leur argent. Donc ça, c'est de base. Et ça, beaucoup de gens, moi c'est mon, j'adresse ça, beaucoup de gens dans la crypto natif ont perdu de vue ce travail-là de 15 ans de crise financière, en fait, qui est tout est fait, toute la réglementation aujourd'hui qui est applicable à ces produits-là, c'est ça l'objectif principal. C'est enlever à l'investisseur. Alors, l'investisseur prend son risque sur l'actif, il est volatile, etc. Mais par contre, il ne faut pas qu'il y ait de risque de contrepartie. Donc c'est que tout l'écosystème aujourd'hui de TradFi, il est construit sur ce principe-là. Donc le produit, comment ça se passe? C'est qu'on va dire que lorsque vous achetez un part de TP BTC spot, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir ce qu'on appelle un participant autorisé. Nous, par exemple, on parle avec Jane Street, Flow Traders, on va dire, c'est le plus grand européen, ils sont aux Pays-Bas, ils sont une boîte publique aussi. Donc l'activité, c'est justement de faire gérer ces flux, que ce soit sur des ETF ou des ETP, crypto, même matières premières, etc. Ce que va faire, je vais acheter pour X milliers d'euros de TP, mon broker, ma banque en ligne va passer un ordre, et l'ordre va arriver du coup chez Flow Traders qui réceptionne tous ces types d'ordres. Eux, ce qu'ils vont faire, Flow Traders, c'est qu'ils vont acheter du vrai Bitcoin spot sur les marchés spot, peu importe la plateforme, enfin, je pense qu'ils sont sur beaucoup. Ils vont prendre ce Bitcoin, ou des fois ils en ont aussi sur leur propre bilan. Ils vont l'envoyer directement chez notre dépositaire custodian, Komainu. Donc déjà, c'est la première preuve de sécuriser. C'est que nous, déjà, on touche pas, on est un gestionnaire d'actifs, un structureur de produits, on ne touche jamais ni à l'euro, s'il a acheté en euros, ni au Bitcoin. D'accord? Il ne transite à aucun moment chez nous. C'est ce qui fait que les ETC en réplication physique sont hyper sécurisés sur cet aspect-là. Il n'y a pas de risque que moi je prends l'actif, etc. Je le perds, je l'envoie à la mauvaise adresse, etc. Donc ça arrive chez Komainu. Komainu, premier un peu gate, premier, enfin, première garantie de sécurité. L'expertise d'une banque d'investissement de Nomura japonaise, la plus grande banque d'investissement japonaise, ou une des plus grandes. Le layer technologique de Ledger, pardon. Et après, la compétence en asset management et les besoins marchés de CoinShares, qui a créé cette entité-là dès 2018 pour dire, et qui est complètement indépendant. C'est une joint venture, on est juste actionnaire, on a juste des sièges au board de supervision et de gouvernance. Donc, les actifs sont détenus par ce conservateur custodian qui s'appelle Komainu, qui est
Régulé.
régulé également, et qui va détenir pour le compte du véhicule les actifs numériques en question. En plus de ça, le véhicule est structuré comment? Il est structuré sur un schéma, ce qu'on appelle le trust. Donc il y a un trustee. C'est la même chose aussi, pareil, pour les produits américains. C'est une forme pas connue du tout en France. C'est la fiducie en France, si tu veux. C'est un fiducie, c'est un fiduciaire, etc. C'est-à-dire qu'en gros, on a un acteur qui s'appelle The Law Debentures, qui est un des plus grands trustees, plus grands fiduciaires au monde, qui est anglais, qui est d'ailleurs aussi public, qui est listé au London Stock Exchange, donc c'est une boîte publique encore, qui a plus de 200 milliards d'actifs sous supervision, je crois, dont son seul objectif, c'est s'assurer de dire, Komainu m'informe qu'il y a eu X millions de bitcoins, ou X bitcoins sont arrivés chez lui, je dois émettre de nouvelles parts, et je renvoie les nouvelles parts, et ça remonte à Flow Traders, ça revient chez le client, d'accord? Tout ça dans la journée, enfin en 2 jours, mais toi tu le vois pas, mais toi c'est tout ce l'infrastructure future. Donc lui, il est là pour dire, je constate que j'ai bien reçu des nouveaux bitcoins, etc. Ou à l'inverse, il y a un rachat, que des bitcoins ont dû être sortis. Donc, je dois détruire des parts ou créer des nouvelles parts. Et si nous, demain, CoinShares va au tapis, il a le droit juridique, contractuel et dans le prospectus du véhicule à prendre la main sur les actifs et dire, je vais les liquider en bon ordre dans le meilleur intérêt des investisseurs, et les investisseurs récupéreront leur euro. Donc si tu. Alors, bien entendu, je te passe les sujets de cybersécurité, comme Komainu, qui passe tous les sujets de cybersécurité, qui soient américains, européens, toutes les normes internationales, qui sont auditées tous les ans par Price sur les process de risque interne, etc. Mais d'abord, bon, ça c'est à la limite de l'acquis, ou entre guillemets, ça fait sens pour toute boîte institutionnelle. Par contre, ce qui est fait, c'est la structuration fait que un CoinShares ne touche jamais à l'argent, ne peut même pas toucher aux actifs ou au flux de monnaie fiat, qu'il y a une ségrégation des rôles entre nous, en structurer le produit, le flow trader, ce qui va faire le market making et la création, le custodian qui va détenir les actifs, et le trustee qui va administrer tout ça et s'assurer qu'en fait, que s'il y a un problème, eh bien, ils peuvent prendre la main sur tout le monde, ils peuvent dire à Comenu, vous vendez tout et vous rendez tout à l'argent à tout le monde. Donc c'est un peu ce schéma, ça qu'on veut expliquer. C'est que par contre, moi je suis quasi sûr que d'une plateforme d'échange, alors peut-être pas, faut devoir comme est, mais il n'y a pas ce schéma-là en disant, ouais, l'argent on n'y touche pas, c'est chez un tiers qui détient le côté, et puis moi si je suis au tapis avec mon bilan, il y a un tiers qui a le pouvoir de me dire, toi tu t'en vas, ça t'appartient pas, et le revendre, ton revendre. Bon, on l'a vu avec FTX, même si on avance, on n'y
Et
touche pas.
alors Jérôme a extrêmement bien expliqué ça, et ça c'est vrai que ça montre quand même que les 2000 ans de finance en fait ont servi à quelque chose quoi, on a appris des choses.
Mais c'est un truc que ça se répète. Les gens sont arrivés dans ce
Oui,
marché-là
c'est
en
ça.
ayant oublié tout ce qui s'est
Oui, voilà, je
passé.
veux dire, des Ponzi on a toujours eu, des banques qui vont au tapis on a toujours eu. Enfin, et en plus, c'est quelque chose qu'on essaye de faire, nous, en plus d'être une boîte cotée, listée, donc vous pouvez voir tous nos audits, c'est en temps réel, vous pouvez voir le collatéral de chacun de nos produits. Donc c'est disponible sur notre site, c'est un auditeur externe qui en temps réel a accès en fait à nos wallets et il peut dire quel est le collatéral par rapport à ce qu'on est censé avoir. Donc elle est toujours un peu surcollatéralisée, mais vous pouvez le voir et ça c'est un truc très intéressant. À l'instar de certains émetteurs aux États-Unis qui ont donné leur
Comment
wallet,
ça? Qu'on de...
nous on fait la même chose sauf que c'est un auditeur qui rajoute cette couche un peu plus d'intelligence et de garantie, qui
Oui,
signe
signe
tous les jours,
tous les
tous les jours
jours, il
il
y a une
signe.
signature.
Voilà. Donc on fait ce travail-là aussi. Donc, et
C'est compliqué, hein.
j'adorerais voir les exchanges faire ça hein, personnellement. J'attends.
On aurait adoré aussi après FTX, c'était le sujet, le fameux proof of reserve, qui finalement n'est jamais arrivé. D'ailleurs, on n'en entend plus
Alors,
du tout parler, enfin en tout cas plus
ils te
vraiment.
font une proof of reserve sans te dire combien ils doivent.
Ouais.
C'est ça qui est magnifique. C'est-à-dire, j'ai 3 milliards, mais si tu en dois 5, ok, ça m'aide pas, quoi.
Et, ouais, ou c'est une proof of reserve aussi à un instant T, sachant qu'il y en avait certaines qui avaient été prises avec des gros mouvements qui avaient été faits sur le wallet, le snapshot, ça repart. Bon, bref, c'était pas très clair. En tout cas, c'est intéressant. Je savais pas que vous aviez aussi cette surcouche-là qui vous permet en fait à tout moment de suivre un petit peu les actifs qui sont sous gestion, etc. Donc
On peut le
c'est.
voir sur notre site internet, en fait,
Ouais.
dans les produits. Enfin, dans les produits,
Il y a
enfin,
une
tu rentres
page
dans le
dédiée.
produit quand tu dis. Bah, en fait, voilà, c'est juste public, public, tout le monde peut le regarder, tout le monde y a accès, et c'est ce qu'on veut depuis le début. On le fait depuis combien? Depuis 2020?
2020, ouais.
2020,
D'accord. Bon, en tout cas, je pense qu'on va arriver au bout de ce podcast parce qu'on va peut-être dépasser l'heure de podcast et ça peut effrayer les gens qui
ouais.
nous écoutent
Pardon.
de cliquer sur un podcast qui fait 1 heure. Mais non, c'était des discussions très intéressantes avec vous. C'est vrai que nous, on essaye évidemment de s'ouvrir, notamment avec Cryptost, à tout ce qui se. Enfin, en dehors de notre écosystème, on a tendance beaucoup à se focus parce que c'est ce qui intéresse aussi et ce qui nous intéresse. Ce qui se passe au sein de notre écosystème, et parfois ça fait du bien de prendre un petit peu de recul et de voir que cette fameuse finance traditionnelle, si on peut dire ça comme ça, qui a longtemps été pointée du doigt comme étant un opposant à la finance décentralisée, ou en tout cas voilà, deux mondes qui s'opposaient, bah, en fait pas vraiment. Il y a quand même des initiatives qui sont proposées, qui fonctionnent et qui permettent finalement d'intégrer les cryptos à la finance traditionnelle, la finance traditionnelle aux cryptos, et justement, CoinShares au milieu de tout ça propose quelque chose je trouve de très intéressant et dont on ne parle pas assez à mon sens puisque je le répète et je pense que j'inviterai aussi ceux qui nous écoutent à nous le dire dans les commentaires qui étaient vraiment au courant du fait qu'on avait cette possibilité-là en fait d'investir par les ETP et qui était aussi simple et aussi accessible entre guillemets. Donc voilà, bon, je vais pas retracer le fil de notre podcast mais il y avait aussi cette comparaison États-Unis-Europe par votre prisme à vous qui est positionné un petit peu sur ces deux territoires, bah, qui est toujours intéressante à recueillir aussi. Donc, merci à vous pour ça. Et je vais vous laisser conclure le podcast. Donc, je vous laisse le petit mot de la fin à chacun de vous deux. Et je vous pose juste une petite question pour conclure. Voilà, un avis en quelques mots, en deux, trois mots, un avis rapide sur l'avenir du marché crypto là, sur les prochains mois. Je le répète pour ceux qui nous écoutent, on est à Bitcoin qui est aux alentours des 60 000 dollars. Quel est votre avis? Plutôt positif, plutôt neutre? Je vous laisse chacun votre tour.
Alors on en rigole pas mal, le Jérôme se fout pas mal de moi. Moi, je déteste les bullruns. Parce que pour moi, les bullruns, c'est que des frustrations, en fait. Parce que
Il a
je me
pas
dis toujours,
lancé en même temps.
on n'est pas encore prêt, on n'a pas lancé ce qu'il fallait. Et puis, tu sais, tu as ce sentiment où c'est le marché qui fait ton travail. C'est-à-dire que tu dis, en fait, quel est mon impact finalement? C'est juste les gens veulent acheter du Bitcoin. Mais évidemment, très positif. Je pense qu'il y a un élément qui est difficile à quantifier, mais le nombre d'outflows sur des ETF Gold qui vont vers le Bitcoin. Ça, je pense, c'est un truc significatif et qui
En termes de
montre, c'est ce
narratif,
que
quoi.
tu disais, Lilian, sur la question de le nouveau store of value, parce qu'au final, si tu prends les caractéristiques de Bitcoin, c'est beaucoup plus un store of value que l'or. Je pense qu'il y a une deuxième truc. Hier, je parlais avec un ami qui disait un truc super intéressant. Il dit, c'est un risk asset avec une limited supply. En fait, c'est ça qu'on entend.
Ouais, c'est un truc qui
Ça crée quelque chose de très particulier. Donc, évidemment, extrêmement positif. Il y a des jours où je me réveille, je me dis, on est sur un super cycle. J'ai du mal à voir ce qui pourrait arrêter, en fait. En tout cas, je parle Bitcoin de ça. Après, moi, ma théorie, après, Jérôme, ma théorie, c'est que je pense qu'on va aller sur un marché. Moi, je dis c'est un marché assez proche des systèmes d'exploitation, c'est-à-dire que tu vas avoir 1% des gens sur Linux, donc c'est 1% des gens sur de la DeFi qui feront leur staking, valideront les trucs, développeront des nouveaux protocoles, etc. Et 99% des gens qui vont passer soit par des systèmes centralisés, non régulés, soit des systèmes centralisés, régulés, soit des systèmes centralisés, régulés et financiarisés. Donc c'est un peu, moi, ma lecture de ce vers quoi tend le marché. Je pense que la question du Web3, je ne sais pas encore si ce narratif va redécoller. J'ai beaucoup de questions là-dessus. Mais il faut rester ouvert. Ah, excuse-moi, Jérôme, je te laisse. Je t'en parle.
C'était magnifique. Non, non, mais moi j'invite tout le monde à peut-être, écoute, notre thèse, on pense que effectivement ça va pas s'arrêter tout de suite, donc j'invite tout le monde déjà bah, peut-être à faire gaffe et à essayer de pas faire les mêmes erreurs qu'on a faites en 2017, 2018, c'est pas fait en 2021, 2022, que les gens quand même aussi en profitent, qu'ils soient voilà, et que tout le monde soit un peu raisonnable et surtout voilà, il y a des produits, ça va s'institutionnaliser, donc il va falloir être en capacité aussi de penser à un peu plus long terme et du coup de regarder un peu ce qui se fait sur le marché pour vraiment être positionné sur le long terme. Nous, par exemple, et je finirai sur ça avec Benoît, on bosse une autre grosse thèse pour les 2 prochaines années pour CoinShares en France, c'est l'éligibilité et l'entrée dans l'assurance vie française. Ça sera forcément pas facile. Mais c'est le moment où on aura réuni la thèse d'investissement de Bitcoin et la thèse d'investissement de l'assurance vie. C'est le long terme, c'est pour une vie, c'est pour se transmettre demain. C'est notre boulot et je pense que c'est. Voilà, on pense qu'il y a du travail, mais les gens sont réceptifs. Donc, je veux dire, ça, autant je le souhaite aux auditeurs de Cryptos, mais je nous souhaite aussi d'y arriver on va dire, dans les 1 à 2 prochaines années.
Bah écoutez, merci, plein de belles perspectives pour CoinShares, pour le marché crypto aussi. Je pense qu'on est relativement aligné là-dessus, hein. On est assez d'accord sur voilà, l'avenir du marché. On a cessé de le répéter dans les derniers mois sur Cryptos et on est assez heureux de voir aussi que ça commence à se faire sentir. Ça, voilà, le Bitcoin nous le rend bien sur le marché jusqu'à maintenant, donc c'est agréable et on espère que ça va continuer sur les prochains mois. En tout cas, premièrement, Benoît Jérôme, merci à vous de nous avoir consacré 1 heure de votre temps pour discuter de ce que vous faites chez CoinShares. Et puis voilà, j'invite tous ceux qui veulent jeter un petit coup d'œil. Déjà, vous avez le lien du site internet dans la description. Vous pourrez retrouver un petit peu tous les éléments qui ont été évoqués dans ce podcast. Et puis voilà, il y aura aussi les liens de vos réseaux sociaux très probablement. Donc allez y faire un tour et puis je vous dis probablement quand même à bientôt, très certainement en milieu de ce boulot, s'il venait à arriver, on en rediscutera ensemble, on pourra refaire un petit bilan
Plaisir.
de l'état d'adoption de vos outils. Est-ce que ce podcast a changé quelque chose? Ça, bon, je le souhaite pour vous, mais bon, je vais pas non plus grandir Cryptos trop vite. Mais en tout cas, est-ce que le bull run ou voilà, la hausse du Bitcoin aura eu un petit impact sur vos produits? Ça, j'aimerais bien en rediscuter avec vous. En tout cas, je vous remercie à nouveau et puis voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très vite.
Merci, Lilian.
Merci,
Bonne
Lilian.
journée.
Au revoir.
Ciao.